Radio Prague, les informations.
Mirek Topolán est remplacé par Petr Nečas pour conduire la campagne électorale de l'ODS. Inauguration d'une nouvelle usine à Ostrava. Le nouvel archevêque de Prague veut ouvrir l'église aux gens. Le conseil exécutif de l'ODS, Parti civique démocrate, a statué pour le remplacement de Mirek Topolánek par Petr Nečas pour conduire la campagne électorale du parti lors des prochaines élections législatives. La réunion du comité exécutif a commencé jeudi en fin d'après-midi. Alors qu'elle n'était pas encore terminée, le président du Sénat, Przemysław Sobotka, avait claqué la porte, déclarant qu'il refusait d'être dans la même pièce que Mirek Topolánek, qu'il aurait accusé de conspiration. Selon le vice-président du Parti civique démocrate ODS, David Vodrashka, Mirek Topolánek pourrait décider à peu près dans un mois de son éventuelle démission du poste de chef de l'ODS. David Vodrashka pense que cette décision pourrait tomber lors de la prochaine réunion du conseil exécutif du parti. Si Mirek Topolánek démissionne, il sera remplacé justement par David Vodrashka. Le chef du parti chrétien-démocrate tchèque, KDU ČSL, Cyril Svoboda, estime que la décision de Mirek Topolánek de se retirer de la campagne électorale du Parti civique démocrate ne met pas fin à la crise dans ce parti. Selon Cyril Svoboda, l'ODS doit se débarrasser des personnes qui confondent la politique avec les affaires. La société Vitkovice Machinery Group a ouvert dans la ville d'Ostrava, en Moravie du Nord, une nouvelle usine de production de parois de chaudière pour les centrales électriques. La construction de l'usine, qui fait partie de la société affiliée Vitkovice Power Engineering, a coûté près de 500 millions de couronnes, quelque 19 millions d'euros. Y travaillent pour l'instant 55 personnes, mais l'usine doit créer plus tard jusqu'à 150 emplois. Le nouvel archevêque de Prague, Dominique Duka, veut inviter les gens à l'église pour qu'ils se familiarisent avec la Bible, échanger les préjugés à son égard, ouvrir l'église tchèque aux citoyens d'un pays souvent décrit comme un des plus athées en Europe, est une de ses prioritaires. Quand le président américain Barack Obama visitera le 8 avril prochain la capitale tchèque, le poste d'ambassadeur américain à Prague sera encore vacant. Le nouvel ambassadeur n'a pas encore été nommé et l'ancien ambassadeur Richard Graeber est parti déjà en janvier 2009. L'intérim est assuré par la chargée d'affaires Mary Thompson. Météo. Ce vendredi, fête de tous les Emmanuel, selon le calendrier tchèque, le ciel en République tchèque est clair à variable et les températures s'échelonnent de 18 à 22 degrés pour les maximales. Samedi, le ciel en République tchèque se couvrira, il pleuvra par endroits et les températures de diurnes ne dépasseront pas 14 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Alexis Rosenzweig.
Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce dernier programme de la semaine. On commencera avec de la politique et avec les mésaventures de l'ancien Premier ministre Mirek Topolánek, prié de faire de la place à la tête du parti ODS, le Parti civique démocrate. Politique toujours, nous ferons un point sur les listes qui sont présentées aux prochaines élections législatives de la fin du mois de mai, avec de nouvelles formations qui auraient des chances de faire leur entrée au Parlement. Et on terminera avec du sport, on parlera du semi-marathon de Prague qui va se dérouler ce week-end. Vous entendrez l'une des organisatrices dans un instant. Ce sera juste avant de passer à la rubrique économique du vendredi, et c'est d'agriculture dont vous parlera Anne-Claire Veluire. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne réception où que vous soyez dans le monde. Et c'est peut-être Barack Obama qui porte la poisse à Mirek Topolánek. En tout cas, les années se suivent et se ressemblent à Prague. Le 24 mars 2008, alors que la visite du nouveau président américain est prévue deux semaines après dans la capitale tchèque, c'est le gouvernement dirigé par Mirek Topolánek qui est renversé par le Parlement. Le 25 mars 2009, alors que la visite du même président américain est prévue deux semaines plus tard à Prague, C'est le même Mirek Topolánek qui est renversé par son propre parti cette fois, ou en tout cas bien mis à l'écart. Car depuis jeudi soir, ce n'est plus lui qui mène la campagne du Parti civique démocrate, ODS, pour les prochaines élections législatives. Mirek Topolánek reste pour l'instant le président du parti, mais c'est Peter Nečas que le conseil exécutif du parti a choisi pour mener la campagne. Une campagne plutôt mal engagée, avec les vives réactions provoquées par les propos de Mirek Topolánek sur l'Église, sur les origines juives du Premier ministre et sur l'orientation sexuelle du ministre des Transports.
Na výzvu výkonné rady odstupuji z pozice volebního lídra občanských demokratů.
Mirek Topolánek l'a lui-même annoncé jeudi soir. Il a également renoncé à figurer sur la liste ODS dans la région de Moravie du Sud. Et surtout, à la demande du conseil exécutif du parti, il réfléchit à une potentielle démission de son poste de président de l'ODS. Les commentaires dans la presse tchèque de ce vendredi ne laissent pas beaucoup de chance à Mirek Topolánek de pouvoir se maintenir longtemps à la tête de la principale formation conservatrice du pays. Les chroniqueurs politiques ne laissent d'ailleurs pas beaucoup de chance non plus à l'ODS de pouvoir rattraper en 2 mois seulement le retard pris dans les sondages sur le Parti social-démocrate, surtout avec un nouveau leader électoral comme Peter Nečas, un politicien que le quotidien Hospodářské noviny définit comme, je cite, « un homme sans casserole ni charisme ». Politique toujours, on le sait depuis mardi déjà, c'était le délai limite d'inscription. 27 partis et formations politiques de tous bords participeront aux élections législatives des 28 et 29 mai prochains. Les électeurs tchèques disposeront donc d'un choix aussi vaste que lors du dernier scrutin, c'était en 2006, un scrutin à l'issue duquel 5 partis avaient accédé à la Chambre des députés. Guillaume Narguet pour plus de précisions.
27 partis et formations, c'est seulement un de plus qu'il y a 4 ans, mais 5 de plus en revanche que pour les élections anticipées qui étaient programmées en novembre dernier et qui, pour la première fois dans l'histoire de la République tchèque, avaient finalement été annulées. Pour rappel, à l'époque, malgré l'accord trouvé par l'ensemble des partis, les sociaux-démocrates avaient décidé à la surprise générale de ne pas soutenir la dissolution de la Chambre des députés, empêchant ainsi la tenue des élections. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce sont précisément les sociaux-démocrates de Jiří Paroubek qui avaient initié le renversement du gouvernement de Mirek Topolánek quelques mois plus tôt et semblaient donc les plus enclins à la tenue de nouvelles législatives anticipées. 6 mois plus tard, 27 partis et groupes politiques sont donc entrés officiellement dans une nouvelle campagne électorale. Seules 15 formations, cependant, présentent une liste de candidats dans chacune des 14 régions que compte la République tchèque. Comme de tradition, ce sont les électeurs pragois qui auront le plus grand choix. 22 partis sont candidats dans la capitale, bastion fort et traditionnel de la droite conservatrice incarnée jusqu'à présent par le Parti civique démocrate, ODS. Outre les 5 partis qui siègent actuellement à la Chambre des députés, à savoir donc l'ODS, mais aussi le Parti social-démocrate, le Parti communiste, le Parti chrétien-démocrate et le Parti des Verts, 3 autres formations nouvellement apparues, Top 09, parti de droite mené par le charismatique Karel Schwarzenberg, les affaires publiques et le Parti des droits des citoyens, dirigé par l'ancien Premier ministre socialiste Miloš Zeman, seront également représentées dans tout le pays. Elles ne seront pas les seules, puisque 7 autres ont entrepris la même démarche, mais elles semblent être les seules, en revanche, susceptibles de dépasser la barre des 5% de suffrage, minimum requis pour accéder à la Chambre des députés. Pour le reste, les autres formations et groupements, certains plus ou moins folkloriques, n'ont que peu de chances de se faire une place au soleil. On pense par exemple au parti baptisé « Jésus est le Seigneur, laissons-nous guider par l'Esprit Saint et que Jésus soit notre Seigneur ». Tout un programme, mais on n'en dira pas plus.
Et on passe au sport maintenant avec le semi-marathon de Prague qui va se courir ce week-end, ce samedi même, avec un nombre record de participants, 8500. Ça représente une augmentation de 30%, de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Pour en savoir plus, Guillaume Narguet s'est adressé à Anne Scheuner. Elle est suisse et elle fait partie du comité d'organisation du semi-marathon de Prague. On l'écoute au micro de Guillaume Narguet.
Le premier objectif, c'était d'atteindre 7500 coureurs. Donc, on est bien au-dessus. On est vraiment bien sûr très très contents, très très heureux de voir autant d'engouement, aussi bien des Tchèques que des coureurs étrangers qui viennent de beaucoup de pays à travers le monde. Et bien sûr, ça induit beaucoup d'organisations supplémentaires. On a dû commander plus de dossards, plus de t-shirts, plus de sacs de départ, plus de médailles. Mais on est bien sûr très content de ce chiffre.
Comment expliquez-vous cette progression si importante? Parce que lorsqu'on regarde les statistiques, le semi-marathon en est à sa 12e édition cette année. La progression a toujours été régulière, mais pas très importante. Cette année, on l'a dit, on est à plus de 30%. Avez-vous des explications?
Bon, je pense que c'est un travail à long terme, surtout en République tchèque. On a surtout une grande augmentation des coureurs tchèques. C'est un travail à long terme avec les enfants, les adolescents dans les écoles à convaincre les Tchèques de courir et de participer à des courses. Je pense que c'est surtout là un effort qui a été fait depuis 5 ans maintenant, aussi avec le Junior Marathon, de convaincre les gens à courir et essayer à participer à des courses. On espère avoir la même tendance pour le marathon dans 5 semaines.
Et quel est l'intérêt des coureurs étrangers pour ce semi-marathon? On sait qu'il y a un phénomène qui s'est développé ces dernières années, un peu partout dans le monde, c'est le tourisme, donc les gens qui voyagent pour participer avec leur famille à des marathons. Est-ce que le phénomène est identique pour une course moindre comme le semi-marathon? Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, au niveau de la performance sportive, un semi-marathon, ça n'a rien à voir avec un marathon, c'est quand même beaucoup plus facile. Finalement, tout le monde peut participer à un semi-marathon.
Oui, c'est vrai, mais je pense que le fait qu'on a la course fin mars, qui est une période un petit peu plus creuse dans le tourisme, où les gens aussi ont des meilleurs prix pour voyager, des meilleurs prix pour l'hôtel, convainc un petit peu plus de monde de venir un peu plus tôt. Au mois de mai, c'est déjà le grand boom du tourisme à Prague, dans la plupart des villes européennes. Je pense que ça a une influence. Peut-être aussi que des gens qui n'avaient même pas pensé à venir à Prague pour courir le semi-marathon se sont peut-être dit, ben voilà, c'est une opportunité, un peu plus à la last minute que le marathon.
Cette année, le semi-marathon a obtenu le label Gold, label d'or donc, de la Fédération internationale d'athlétisme. Qu'est-ce que cela signifie pour l'organisation, mais aussi qu'est-ce que cela implique comme obligation?
Pour nous, c'est un énorme honneur. C'est surtout une reconnaissance au niveau international, principalement au niveau des coureurs élites, c'est clair. Beaucoup d'élites veulent courir dans des courses qui ont reçu un label. Et le label d'or est la plus haute distinction. Donc ça, c'est une garantie de qualité. C'est une garantie aussi pour eux d'un prize money, d'une dotation de course plus haute. Pour nous, ça induit bien sûr beaucoup plus de travail, pas dans le service qu'on apporte directement, parce que ça, je pense qu'on essaierait de l'améliorer malgré tout. Mais c'est surtout tout ce qui est les contrôles. Alors, déjà, le nombre de coureurs élites qui doivent participer, qui ont un certain temps à respecter. On doit aussi apporter une certaine dotation. Et ce qui est très important pour nous, c'est la transmission télévisée, pas nécessairement en direct, mais en minimum 5 pays différents. Donc pour nous, c'est un énorme investissement de trouver cette retransmission dans 5 pays différents. On travaille avec beaucoup de journalistes étrangers pour nous aider.
Malgré le succès qu'ont les courses organisées à Prague, cette année la mairie, notamment celle du premier arrondissement, avait envisagé de déplacer le parcours de la course, c'est-à-dire qu'il ne serait plus passé par le centre-ville. Il y a eu quand même quelques changements. Comment expliquez-vous cette remise en cause un peu de la municipalité?
Moi, je pense que pour toute municipalité doit réussir à satisfaire beaucoup de monde en même temps. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent à Prague, dans le centre de Prague, et Prague 1 pendant toute l'année. Ils nous ont juste demandé de reconsidérer notre parcours. C'est clair que pour nous, c'était un défi parce qu'il faut toujours trouver un parcours plat qui répond aux mêmes normes de l'IAAF. Mais on a réussi à trouver un compromis qui va satisfaire aussi bien les coureurs élites que les populaires, les organisateurs, la ville de Prague aussi. Je pense que tout le monde va être très très satisfait de ce parcours-là.
Dernière chose, deux concurrents particuliers sont annoncés cette année. Il y a bien sûr le footballeur Pavel Nedved, un degré moindre le maire de Prague. Est-ce que c'est aussi important pour vous, pour l'organisation de la course?
C'est capital. Bien sûr, toute personnalité qui confirme sa participation à nos courses génère énormément de visibilité, énormément de publicité pour nous, et sont aussi un témoignage de la qualité de nos courses et de l'intérêt de toute personne de participer. Donc on est très très content d'entendre ces participations. Mais bien sûr, ça requiert un service de sécurité encore plus poussé. Mais on est très très content de ces bonnes nouvelles.
C'était Anne Scheuner au micro de Guillaume Narguet. Anne Scheuner, membre du comité d'organisation du semi-marathon de Prague. Le programme en français de Radio Prague se poursuit dans un instant.
Économie, commerce.
Et c'est d'agriculture dont on va parler dans la suite de ce programme en français. Une autre façon d'envisager l'agriculture est la relation entre le paysan et les consommateurs. C'est ce que propose un système inventé au Japon et lancé en France sous le sigle AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en décembre 2008, Sabine Leray, productrice en Ariège de porc noir et de vaches gasconnes en élevage herbagé, productrice également depuis 2003 de la première AMAP de Midi-Pyrénées, et Annie Weiknet, consommatrice fondatrice de la même AMAP, était déjà venue en République tchèque ici pour partager leur expérience avec des fermiers tchèques. Un an et demi plus tard, elles sont revenues à l'occasion d'une deuxième mission dite d'essaimage. Elles sont au micro d'Anne-Claire Veluy, en écoute.
Annie et Sabine, alors vous êtes ici en République tchèque, vous êtes venues passer une petite semaine à la rencontre des fermiers tchèques. Vous avez été envoyés en mission par une association qui s'appelle Urgency, et vous êtes venues présenter aux producteurs tchèques le système des AMAP en France, qui n'est pas un système français en soi, vous l'avez dit, qui est un système inventé au Japon, ensuite aux États-Unis, au Québec et ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez simplement quel est ce système des AMAP?
Bien, c'est une façon de s'organiser directement entre une personne qui a besoin d'être nourrie et un paysan qui va la nourrir, et de voir ensemble comment on peut s'organiser pour que la relation soit juste et profitable pour tout le monde. C'est-à-dire que les personnes soient bien nourries et que le paysan vive correctement, décemment de son travail.
Alors en France, on appelle ça le système des paniers bio ici.
Non, pas du tout. Non, c'est pas des paniers bio. Ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire, c'est un projet commun entre des paysans et les personnes qu'ils nourrissent.
Parce que l'objectif pour les gens qui se sont réunis en AMAP, ce n'est pas de recueillir un panier bio avec les légumes bio qui vont satisfaire leur assiette. Ce n'est pas que ça, et c'est loin d'être ça d'ailleurs. C'est au contraire de soutenir un producteur. Voilà, l'objectif, c'est de pérenniser l'activité du producteur et que l'année suivante, il soit encore là parce qu'il a les moyens économiques d'être encore là.
Donc très concrètement, ça marche comment?
Un groupe de consommateurs se constitue et chacun d'eux va s'engager, par un contrat, mais bon, les formes d'engagement peuvent être diverses, mais c'est pour nous c'est un contrat tout simple où chacun dit ses obligations vis-à-vis d'un paysan. Alors le paysan va s'engager à produire de façon saine, sans produits chimiques de synthèse, et à partager la récolte équitablement entre les personnes. Et les personnes vont s'engager à prendre globalement toute la récolte telle qu'elle sera, c'est-à-dire en acceptant qu'il puisse y avoir des aléas de la production, que les choses poussent plus ou moins vite. Et on partage à la fois les moments de pénurie et les moments d'abondance. C'est-à-dire un peu, le paysan, c'est comme si c'était notre jardinier personnel. Donc c'est comme si on avait son jardin, on prend les choses comme elles viennent.
Vous êtes ici en République tchèque pour la deuxième fois. Vous êtes déjà venu l'année dernière commencer à présenter ce système des AMAP aux producteurs tchèques. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez rencontré ici? Que font les fermiers que vous avez rencontrés ici en République tchèque?
On a rencontré des petits fermiers qui souvent avaient repris des fermes au moment des restitutions et qui ont un peu tout à reconstruire. Donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils avaient beaucoup de courage. Parce que vendre leur production directement aux consommateurs en vente directe, ce n'est déjà pas facile en France. Mais en République tchèque, cela semble encore plus compliqué, en particulier pour tous ceux qui font de l'élevage, parce que la République tchèque a perdu les possibilités pour les petits producteurs de faire abattre, découper leurs bêtes et ensuite de récupérer la viande pour la vendre eux directement. C'est-à-dire que les outils d'abattage et de transformation, ils ne les ont pas à disposition. Donc vraiment, ça semble difficile et il faudra sûrement que les pouvoirs publics fassent l'effort de reconstituer ce réseau d'outils à la disposition des petits paysans.
Vous parlez de ce problème d'abattage, d'abattoir, qui sont, on va dire, un des symptômes de l'histoire agricole tchèque aussi, qui n'a pas la même histoire que la France, puisqu'il y avait quand même 50 ans de communisme ici. Est-ce que vous voyez un petit peu des restes, ou est-ce que vous avez repéré des caractéristiques de l'agriculture tchèque qui vous ont marqué ici?
Mais moi, ce que je constate surtout, c'est que 50 ans de communisme ou 50 ans de productivisme capitaliste aboutit à peu près au même résultat, c'est-à-dire à une concentration des terres dans les mains de peu de personnes, et souvent avec des capitaux qui sont même pas des capitaux de la campagne, et une difficulté grandissante pour vivre des petits paysans nourriciers, c'est-à-dire une difficulté pour la population d'accéder à des produits locaux de qualité aussi. C'est-à-dire une restriction du choix des consommateurs.
Alors, vous êtes déjà venu ici l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez rencontré les mêmes personnes que vous avez rencontrées l'année dernière. Comment a avancé un peu ici cette idée d'installation de ce système des AMAP en République tchèque avec les gens que vous avez vus?
Ben, je crois que nous devons avouer que l'an dernier, nous étions partis un peu découragés en disant « c'est tellement difficile pour eux, je ne sais pas s'ils vont pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ?» Et on a été quand même très heureuses de voir que l'idée a fait son chemin et qu'il y a déjà un groupe qui fonctionne comme ça à Prague, un autre en train de se monter. Et cette année, nous sommes allés en Moravie et je pense aussi que ça a donné des idées et que ça a donné aussi de l'espoir de pouvoir s'organiser autrement et trouver une solution à ces problèmes-là.
Par rapport aux cultures, au système propre, comment l'adapter ici en République tchèque? En France, on a quand même une grande variété dans l'agriculture française, une grande variété de fruits et légumes, particulièrement peut-être dans le sud de la France d'où vous venez. Ici, dans la production maraîchère, ça semble assez réduit. Est-ce que vous croyez que c'est possible de changer ça? Est-ce que ça peut être une entrave ici à l'adaptation du système pour les consommateurs qui vont pas avoir envie de manger tout l'hiver que des patates et des choux?
Non, moi ce que je pense, c'est que si les consommateurs sont prêts à soutenir un paysan qui sera en expérimentation pour de nouveaux légumes, de nouvelles façons de travailler, si les consommateurs le soutiennent, le paysan va pouvoir prendre ce risque et d'innover, de s'améliorer. Et je pense que ça peut changer aussi comme ça. Mais ça va dépendre aussi si on les soutient et s'ils sont sûrs que leur production, s'ils font des choses nouvelles, ben leur production vont trouver des personnes qui vont vouloir le manger, quoi.
Est-ce que vous avez parlé concrètement avec certains paysans qui vous ont dit « oui, je suis prêt à cultiver ça ou ça » alors qu'on connaît pas bien en République tchèque?
Il faut pas croire. On en a rencontré qui nous ont dit qu'effectivement, ils étaient limités en semences ici, mais qui cherchent d'autres semences qui sont déjà en essai quoi de diversification. Mais je crois qu'il faut laisser du temps et surtout qu'il faut créer les conditions de sécurité économique et sociale et humaine pour que les paysans puissent s'engager dans autre chose que la survie quotidienne.
Vous avez parlé de Paris en disant que c'est peut-être en région parisienne qu'il y a le moins de fermes en système AMAP. Est-ce que il n'y a pas un problème aussi d'adaptation de ce système pour les grandes villes ou les grandes métropoles? Est-ce que ça pose pas un problème avec le rythme de vie des citadins qui sont ils vont vraiment jamais savoir ce qu'ils doivent faire le lendemain, où est-ce qu'ils vont être et qui sont pas forcément très flexibles ou qui sont à l'extrême très flexibles mais jamais disponibles? Est-ce que c'est difficile à adapter pour les citadins comme système?
Écoutez, je ne sais pas parce que moi je peux témoigner d'une ville qui tourne pratiquement au million d'habitants avec des embouteillages tous les soirs. et les gens qui travaillent. Et les AMAP se développent très vite sur Toulouse. On en doit en avoir 40, 50 sur l'agglomération, avec une demande non satisfaite parce qu'il n'y a plus assez de paysans. Non, parce qu'au contraire, on perd moins de temps pour se procurer des produits alimentaires en y allant un soir par semaine, le soir entre 18 et 20 heures, qu'en passant l'après-midi du samedi au supermarché. Donc c'est plutôt du temps gagné. Et ça se développe beaucoup en ville. Simplement, si dans la région parisienne et peut-être à Prague, ça va être difficile, ce n'est pas parce que les consommateurs auraient des difficultés pour participer à ces groupes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de producteurs pour nourrir ces villes. Je vois dans notre ville, il doit rester une vingtaine de maraîchers produisant des légumes, alors qu'il y en avait plus de 1000 en 1970. Donc c'est que les villes ont construit à la place de leur ceinture verte de maraîchers et qu'aujourd'hui il n'y a plus assez de paysans. Le problème il est là, il n'est pas du côté des consommateurs.
C'était Sabine Leray et Annie Weitnet qui sont productrices en Ariège et fondatrices de l'AMAP. L'AMAP, c'est l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Si vous voulez réécouter cet entretien, c'est sur notre site internet. Vous connaissez déjà l'adresse, le www.radio.cz, www.radio.cz/fr. Il y aura même un concours de Pâques organisé la semaine prochaine. Si vous voulez participer, c'est la même adresse. Pour nous écrire, l'adresse courriel de Radio Prague est le français@radio.cz, français@radio.cz. Tout commentaire et toute suggestion est bienvenu, évidemment. Et pour vos courriers et vos rapports d'écoute, c'est la même adresse. Sinon, c'est l'adresse que vous entendez dans le jingle. Le Vinohradská 12 120 00 Praha 2. Vinohradská 12 120 00 Praha 2. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez une émission de Radio Prague dans une autre des 6 langues dans lesquelles Radio Prague émet. Mais pour l'instant, c'est la fin du programme en français. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kilohertz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.